Ferhat-Alani, bonjour.
Bonjour.
Fallujah, ma campagne perdue, c'est le récit de votre retour dans la ville de votre famille paternelle. Vous êtes franco-irakien, vous y avez passé quelques étés quand vous étiez enfant, on vous voit d'ailleurs au début de ce roman graphique, et vous y revenez quelques années plus tard, la tête pleine des souvenirs que vous aviez gardés. Mais vous réalisez très rapidement que tout a changé, la ville, le regard de la population, votre famille, vos oncles aussi.
Oui, tout a changé lorsque je reviens en Irak et notamment à Fallujah, parce que j'ai en tête le Fallujah de l'été 89, donc la première fois que je vais en Iran. Et c'est un été où je passe des moments plutôt heureux dans une ville qui se trouve à 50 kilomètres à l'ouest de Bagdad et que je découvre, ainsi que ma famille. À l'époque, c'est une famille donc unie, c'est une campagne plutôt agréable, verte, avec un fleuve qui s'appelle l'Euphrate. Et au cours des années, quand j'y retourne, je vois au fur et à mesure la misère s'installer avec l'embargo qui est imposé en Irak par l'ONU durant les années 90, jusqu'à arriver après la guerre en 2003 et voir une ville totalement détruite et des structures également familiales de la ville complètement déstructurées.
Vous écrivez que la cité des mosquées, puisque c'est le nom que l'on donne à Fallujah, est devenue la bête noire de l'armée américaine.
Oui, alors en fait, il faut savoir que lorsque l'armée américaine est arrivée en Irak en 2003, au tout début, il n'y a pas eu d'affrontement dans Fallujah. Fallujah, qui est un bastion de l'armée irakienne, avec beaucoup de soldats qui vivent là-bas. Mais il se trouve que les Américains s'installent dans la ville, sur le toit d'une école, avec, on va dire, une visibilité sur les toits des maisons. Et ça, c'est un choc culturel qui n'a pas été, pour le coup, pris en compte par les Américains, car ils ne le savaient pas. Chez les Irakiens, et notamment dans les villes conservatrices comme Fallujah, les femmes, souvent, vont sur le toit pour étendre le linge et souvent sans voile. Et tout de suite, les habitants ont accusé les Américains d'observer ces toits avec des jumelles.
Ça a provoqué
des manifestations au départ pacifiques avec des gens qui se sont rassemblés devant en fait cette école avec des panneaux, avec des slogans demandant aux Américains de quitter la ville. Et les Américains ont paniqué ce jour-là et ont tiré dans la foule, tuant 19 personnes.
Et donc, quand vous revenez en 2004, vous vous rendez compte du nombre de disparitions, de morts qu'a provoqué cette guerre, vous allez dans un cimetière, et puis on vous parle de ces enfants qui naissent avec des malformations congénitales, et c'est pour vous le début d'une enquête qui durera plusieurs années.
Oui, au départ, lorsque je retourne à Fallujah, c'est d'abord pour voir ma famille, et j'apprends effectivement que certains membres de ma famille que j'avais rencontrés en 89 et dans les années 90 ne sont plus là, notamment un cousin que j'espérais retrouver qui a été tué. Et puis, dans ce fameux cimetière des martyrs, qui était à l'époque un stade de football, je découvre des milliers de tombes. Et le gardien de ce cimetière, et puis d'autres dans le voisinage, me parle de ces bébés déformés et de ces taux de cancer qui ont explosé. Donc là, je me pose des questions à ce moment-là et je décide de mener l'enquête.
Vous allez rencontrer des familles d'enfants qui présentent des déformations. Alors, vous le dites bien, hein, en Irak, pour ces familles, il y a du désespoir, de la honte, mais certaines familles irakiennes vont accepter de vous rencontrer.
Je tiens à préciser qu'au départ, l'histoire était tellement incroyable que moi-même, je n'y croyais pas. Je voulais des preuves. Et il se trouve effectivement que dans la société irakienne, ces enfants sont un peu des tabous dans les familles. On a honte, on les cache. Et puis, il faut dire aussi que la plupart de ces bébés déformés meurent très rapidement. Mais pour ceux qui restent en vie, on les cache. Il se trouve qu'à un moment donné, la situation devient tellement dramatique que des familles acceptent que leurs bébés soient pris en photo, acceptent même de les montrer. Et donc, c'est quelques mois plus tard que je découvre, en fait, par des photos, l'existence de ces bébés déformés, la confirmation qu'ils existent. Et à ce moment-là, beaucoup de familles acceptent de me donner des interviews et je prends contact également avec l'hôpital de Fallujah qui m'assure qu'il y a une naissance sur 5 qui est une naissance avec malformation. Et effectivement, lorsque je suis sur place, j'assiste quasiment à la naissance d'un bébé déformé.
Et donc, cette enquête va vous conduire aussi aux États-Unis où vous rencontrez des militaires américains qui ont combattu à Fallujah et on se rend compte là que le silence est le même.
Oui, alors tout d'abord, moi j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. Pour en revenir au cimetière des martyrs, le gardien m'a également montré des photos très difficiles à regarder, hein, de cadavres de combattants très étranges. Donc j'ai vite compris que des armes assez, on va dire, nouvelles ou on va dire expérimentales ont été testées à Fallujah. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord voulu rencontrer des marines américains qui ont combattu à Fallujah. Certains ont refusé de me parler, d'autres ont accepté. Et je me suis rendu compte, en fait, sur place aux États-Unis, que certains de ces soldats eux-mêmes étaient contaminés par ces armes toxiques. Il se trouve que c'est un trou noir lorsqu'on pose la question à l'administration américaine. Personne n'a voulu me répondre à l'époque.
À l'issue de votre enquête, quelles sont ces armes, quels sont les produits qui pourraient être à l'origine de ces drames?
Alors, au départ, quand j'ai fait face à ce mur imposé par l'armée américaine, j'ai essayé donc non seulement de rencontrer des soldats qui étaient témoins de cette bataille, parfois acteurs, mais j'ai également rencontré des experts en armement, britanniques, américains, qui parfois ont bossé même à l'ONU dans l'élaboration de certaines armes ou parfois dans le nettoyage de terrains visés par ces armes. Et j'ai récolté énormément de témoignages basés sur des études qui ont montré que beaucoup des armes américaines employées en Irak étaient d'abord des armes expérimentales. L'Irak a été un laboratoire pour l'armée américaine. Et dans ces analyses, on a souvent retrouvé de l'uranium appauvri et parfois enrichi. L'uranium, je rappelle que c'est une substance qu'on utilise dans les centrales nucléaires.
Il y a même un expert qui vous dit que le taux d'uranium est plus élevé à Fallujah qu'il ne l'a été à Nagasaki ou à Hiroshima.
Oui, tout à fait. Cet expert britannique que j'ai rencontré m'a parlé de son étude. D'ailleurs, c'est la seule étude qui a pu être réalisé à Fallujah après 2004, où il a entre autres récolté des milliers d'échantillons de terre, il a récolté des cheveux d'habitants de Fallujah avec des témoignages qu'il a recoupés, et il s'est effectivement basé sur cette étude pour prouver par les chiffres que les taux de radiation et les taux de contamination sont plus élevés qu'à Hiroshima.
Alors, sur la dernière image du roman graphique que vous avez donc publié avec le dessinateur Halim, apparaît le drapeau noir de l'État islamique, car bien sûr, en plus de provoquer des morts, des maladies, l'intervention américaine a aussi, et d'ailleurs c'est ce que vous disiez au début de notre entretien, provoqué une profonde déstabilisation du pays.
Oui, tout à fait. Alors, le propos n'est pas de dire que la bataille de Fallujah a créé l'État islamique, mais il est de dire que l'intervention américaine, évidemment, a alimenté les extrémismes. Il faut rappeler que moi, lorsque je vais à Fallujah, je n'entends que des histoires d'assassinats, de bombardements, d'enlèvements, enfin, la guerre, quoi, en somme. Et le propos est de dire que parmi tous ces drames, les drames liés à la guerre, il y a ce ressentiment que j'ai vu, moi, naître, notamment en 2004, puis être alimenté par de longues années de terreur et de longues années en guerre, et qui ont permis l'émergence, quelque part, de groupes extrémistes comme l'État islamique.
L'armée américaine est donc partie en 2011. Aujourd'hui, le mouvement de protestation qui a mobilisé la société irakienne de ces derniers mois est mis entre parenthèses en raison de la pandémie du coronavirus. Quelle pourrait être la suite, selon vous ?
Alors, au niveau des manifestations, je pense que la pandémie a juste, on va dire, mis une pause sur ce mouvement qui ne va pas s'arrêter. Et d'ailleurs, moi, je suis en contact assez régulièrement avec des jeunes manifestants à Bagdad par téléphone qui me certifient que dès que les restrictions seront levées, après la fin de la pandémie, les manifestations reprendront de plus belle, parce que le problème ne bouge pas. Le problème de l'Irak aujourd'hui n'est plus un problème directement lié à la guerre, mais ce sont les conséquences de la guerre, c'est-à-dire une société qui n'existe plus, la corruption à outrance et des responsables politiques qui sont en total décalage avec le peuple. Et donc, je pense que cette pandémie est juste, on va dire, une pause donnée à un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter en Irak, parce que la jeunesse ne fuit plus le pays, elle veut reconstruire le pays, et sans les responsables politiques qui sont responsables de sa tragédie.
Merci Ferhat Halani.
Merci à vous.